Bonjour à tous et merci d'être là ce matin malgré la neige. Nous allons discuter aujourd'hui, débattre, dialoguer avec Daniel Estelle, qui est avocat d'affaires à Paris dans les cabinets Wilkie, Farr and Gallagher et qui est également maître de conférence à Sciences Po et l'auteur d'un livre qui s'appelle « La nouvelle économie sociale pour réformer le capitalisme ». De manière très brève, on peut dire que c'est un plaidoyer pour rapprocher l'économie sociale de l'économie capitaliste, plutôt que les opposer, comme c'est trop souvent le cas. Alors hier soir, nous avons discuté, je dirais, de la philosophie qu'il y a derrière ces idées de rapprochement, et on a vraiment essayé de dialoguer autour de ces notions d'économie sociale et d'économie capitaliste. Aujourd'hui, nous allons repartir de là, mais nous allons aller plus en profondeur dans la discussion des modifications juridiques fondamentales qu'un tel rapprochement suppose, selon Daniel. Et je pense que ça va nous permettre vraiment d'aller au fond de certaines questions et du pourquoi, aujourd'hui, ce rapprochement n'est pas toujours aisé, entre autres à cause de certaines limitations juridiques qui elles-mêmes proviennent peut-être de préjugés ou de partis pris sur ce que doit être l'économie sociale ou ce que doit être l'économie capitaliste. Voilà en quelques mots ce que je peux dire en introduction. Je voudrais vous signaler également que le livre de Daniel est disponible, j'en ai quelques exemplaires qu'il a sur le piano. Et voilà, je vous souhaite une bonne matinée. Daniel, à toi.
Merci Laurent. Bonjour à tous. L'exercice est pour moi inédit de faire une présentation de mes idées à partir, je dirais, ou après celle que j'ai faite la veille. Donc, je ne sais pas très bien ce que je dois prendre pour acquis ou non, peut-être, pardon.
Oui, tu peux faire un bref rappel de ce dont on a discuté hier ou des notions fortes pour qu'après, je pense que pour la plupart des gens ici, ce sera, je vais dire, facilement compréhensible. Et après, on pourra aller plus en profondeur dans les questions peut-être juridiques, entre autres.
D'accord, parce que je vois, bien sûr, volontiers. Moi, n'hésitez pas, si vous le voulez bien, à m'interrompre. N'hésitez pas, je crois qu'on est suffisamment peu nombreux pour que on utilise cette patinée comme pour la rendre interactive et que vous me dirigiez dans le sens qui vous intéresse. Sinon, bon, je suis capable de parler de mon sujet très, très longuement, mais je serais très content que vous fassiez préciser les notions, les points que je peux aborder éventuellement un peu plus. Tel ou tel point que je peux aborder peut-être un peu plus rapidement. Le point de départ, de ma réflexion, est que tant que le profit restera la finalité de l'entreprise, le capitalisme ne changera pas de voie, ne changera pas de direction, et les excès que l'on a pu voir se reproduiront. Les excès que l'on regrette se reproduiront. C'est-à-dire que tant que le bateau continuera à tirer dans la même direction, quelles que soient les constructions qu'on peut mettre autour, il se dirigera à cause de la force de ce moteur qu'est le profit, il se dirigera, il ne changera pas de direction. Alors il mettra des ornements, il s'entourera peut-être de quelques patrouilleurs qui le protégeront, il mettra des drapeaux, il repeindra la coque, mais le bateau ira toujours dans la même direction. Ça, en tout cas, je ne vois pas, en tant que praticien, je ne vois pas depuis dans les 20 dernières années, malgré tous les efforts qui ont été accomplis, ou tous les, oui, tous les efforts que font les gens qui entourent, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, on va y venir dans un instant, je ne vois pas de changement de direction du bateau, et je pense que la crise, moins encore que tout autre phénomène, a produit un tel changement. Je pense que la crise a plutôt radicalisé encore les comportements au sein de l'entreprise. La pression, bah vous êtes la plupart d'entre vous, si ce n'est tous, d'après ce que je ne pas, la plupart d'entre vous dans le monde de l'entreprise, donc vous le voyez bien. Moi, je suis persuadé, la difficulté nouvelle des affaires, enfin la difficulté accrue des affaires, rend les comportements dans l'entreprise encore plus radicaux. Il y a moins de monde pour faire le moins travail, pour le faire le même travail. Les pressions sur les employés sont encore plus fortes. La pression qu'exerce l'actionnaire sur l'entreprise n'a en rien baissé. Les visions court-termistes des investisseurs institutionnels ne se sont pas modifiées. Bon. Et parce qu'il faut rendre compte, aux actionnaires, il faut attirer les actionnaires dans un contexte encore plus difficile. Bon. À côté de cela, on voit, c'est juste pour apporter une note optimiste, et il est absolument important de le faire ici, vous allez voir, je vais en apporter beaucoup, d'ailleurs c'est fondamentalement optimiste. Je pense que le moment, enfin, peut-être pas trop d'idées à la fois, je n'ai jamais vu autant d'initiatives intéressantes dans le monde de l'entreprise qu'actuellement. Donc, on a deux phénomènes. Ces deux phénomènes, il faut bien voir que les deux phénomènes sont coexistants. Il y a donc là de quoi rendre optimiste. De manière générale, si maintenant je sors du monde de l'entreprise, celui de la société, il y a une demande extrêmement forte à ce que l'entreprise évolue, que l'entreprise se modifie, que l'entreprise devienne un acteur positif d'un développement que l'on espère choisi plutôt que subi. Donc là, il y a une demande de la part de la société, et enfin une critique, un aspect négatif, une critique des excès, critique de tous les débats sur la rémunération des travailleurs. Bon. Mais il y a aussi une attente, il y a clairement une attente de la société vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis de l'entreprise. Et si l'entreprise se montre un peu présente, on peut avoir très rapidement et de manière très forte une réconciliation entre l'entreprise, alors je pense plutôt à la grande entreprise, parce que la dissension avec la moyenne et la petite, c'est quand même beaucoup moins forte. Mais avec la grande entreprise, elle est forte. On peut arriver à aboutir à une réconciliation assez rapide. Les débats actuels sur le renouveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'on voit On voit principalement dans les débats, dans la presse, on voit le retour de l'économie sociale, que maintenant on appelle sociale et solidaire. Les tenants de cette économie-là disent, ben, si je simplifie le propos, on a vu l'échec de l'économie capitaliste, elle n'a su en rien éviter la crise. Elle est incapable de s'occuper du bien commun, elle est incapable de poursuivre un intérêt public. C'est le monde de l'égoïsme, c'est le monde du profit. Et là, pour le coup, je ne caricature pas les propos du tout. Je ne les exagère pas du tout. L'avenir, il est de notre côté. C'est l'économie sociale. C'est seulement cette économie-là qui peut être le moyen adapté de développement de demain. Alors, c'est quoi cette économie sociale ? Il est important de le préciser. C'est une économie fondamentalement basée sur un mode de décision au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que l'économie sociale se différencie de l'économie capitaliste en ce que la détention... Enfin, le pouvoir ne dépend pas de la détention du capital. Soit il n'y a pas de capital du tout, le monde associatif, soit le monde de la coopérative, il peut y avoir un capital, mais c'est vraiment l'élément très important, traditionnel de l'économie sociale. il n'y a pas de corrélation entre une détention du capital et le pouvoir de décision. Le principe de base pour les décisions, c'est un homme, une voix. C'est la version moderne de cette thèse. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les journaux actuellement. C'est le retour de la démocratie dans l'entreprise. C'est un mode d'organisation de l'entreprise. Et parce que j'ai ce mode d'organisation, je suis social, je fais partie de l'économie sociale. Bien. Si on voit bien l'intérêt de cette idée, si on remonte par exemple au 19e, on voit bien en quoi cette idée était à l'époque révolutionnaire et constituait un véritable pas en avant. L'introduction de l'économie, de la coopérative, tout ce qui a pu être écrit, pensé, réalisé, à partir de cette idée, était absolument révolutionnaire à l'époque. L'entreprise était beaucoup moins financiarisée qu'aujourd'hui, les défis n'étaient pas les mêmes. C'était une avancée et ça reste une idée extrêmement, extrêmement généreuse. C'est notamment la coopérative. Mais.
Oui. Quand vous parlez de coopérative, vous voulez bien préciser qu'il s'agit de coopératives de travailleurs, pas des coopératives d'acheteurs ou d'épargnants.
Mais ça peut être aussi, mais même dans la coopérative d'épargnants, par exemple, c'est la même idée que, je pense vraiment à la coopérative au sens large. C'est l'idée que l'entreprise appartient soit à ceux qui y travaillent, soit à ceux qui bénéficient de ses services.
Et dans ce deuxième cas, ceux qui y travailleraient resteraient salariés.
Ceux qui y travaillent, ceux qui travailleraient ne sont pas nécessairement associés.
La relation salariale peut subsister dans une coopérative d'épargnants.
Absolument. Okay. Absolument.
Je suis pas d'accord, mais c'est ça que
vous. Dans quel sens vous n'êtes pas d'accord? Enfin, elle peut, juridiquement, elle peut, en tout cas.
Non, mais je ne veux pas orienter le débat vers une direction qui ne serait pas la vôtre, mais je voulais simplement bien comprendre que dans coopérative, vous entendez toutes sortes de coopératives, quelle
absolument.
Que soit la nature
absolument.
Du coopérateur.
Absolument.
Et la fonction du coopérateur.
Absolument. Absolument. Après, vous savez, comme chez vous, comme chez nous, en France, il y a après un certain nombre de types de coopératives régulées juridiquement. Enfin, c'est un maquis juridique absolument extraordinaire. La coopérative, c'est extrêmement. Vous avez les SCIC, les SCOP, enfin. C'est assez impressionnant et difficile de s'y retrouver dans la coopérative européenne. Enfin, c'est assez difficile, bien. Mais, en revanche, la question de la finalité sociale n'est pas posée en soi dans l'économie sociale. Le fait structurant de l'économie sociale, comprise telle qu'elle est comprise habituellement, c'est donc un certain mode de prise de décision. Coopérative, je dirais que la coopérative a largement ensuite évolué. On a fait des textes particuliers, de plus en plus de textes particuliers pour permettre notamment aux coopératives dans le domaine des assurances ou dans le domaine financier de s'adapter à la concurrence d'autres sociétés d'assurance ou d'autres banques, ce qui fait qu'elle a largement perdu, elles ont pour les plus grandes d'entre elles, largement perdu leur identité première, leur particularité. Aujourd'hui, on regarde le Crédit Agricole, c'est difficile de bien comprendre en quoi son organisation est différente de celle d'une autre banque. Et l'ensemble des coopératives, des grandes coopératives bancaires par exemple, ont souffert de la crise au moins autant que les autres que leurs concurrentes. Bien. Est apparu. Depuis quelques années, 4-5 ans, disons, un nouveau type d'entreprise qui est donc ce qu'on désigne habituellement sous le nom de social business. Enfin, que je désigne et qu'on désigne assez large. Et c'est important, le mot est important. Appelons-le ici, si vous voulez bien, même si le terme est anglo-saxon, social business. Social business, qu'est-ce que c'est en termes très simples? C'est une entreprise qui se fixe un but social. C'est-à-dire qu'il s'agit donc d'une société organisée comme toute autre société où le capital donne, la détention du capital donne le pouvoir de diriger la société, mais qui, à la différence d'une société traditionnelle, n'a pas pour but le partage du profit, mais a pour but la satisfaction d'un besoin social. C'est un animal très nouveau. C'est un animal qui n'existe pas, qui n'est pas reconnu par le droit. Il ne faut pas sous-estimer la nouveauté de cet instrument. Il n'est pas reconnu dans notre droit. Si je prends le vôtre, par exemple, si je prends l'article 1, en fait, tout petit peu de droit, du Code des sociétés, une société est constituée par un contrat au terme duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Chez nous, c'est à peu près les mêmes termes, c'est en vue de partager un profit ou de réaliser une économie. Donc, la société, le social business n'est pas reconnu par notre droit. Alors ça déjà pour un juriste, c'est un peu choquant. Parce qu'il n'a pas de... Aujourd'hui, je pourrais, si j'avais du temps à perdre, je pourrais rechercher la nullité des social business qui avaient été constitués en France.
Oui. Ma question est peut-être naïve, mais quand on parle de profit, ce n'est pas uniquement du profit monétaire, ça peut être un profit justement autre. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas l'esprit et la lettre, et donc une interprétation possible?
Alors, c'est une voie intéressante. C'est une voie tout à fait intéressante. Donc ici, on parle de bénéfice, hein, mais de procurer aux associés un bénéfice.
Tout à fait. Or, l'ouverture est là.
Oui, mais moi je vais un peu plus loin. Moi, pour moi, c'est aux associés.
Ah oui, d'accord.
Alors qu'effectivement, ce ne soit pas un profit de l'argent, enfin, mais que ce soit un autre profit, voire un bien-être social. Et on reviendrait vers la coopérative. Il ne faut pas oublier que la coopérative est une société. On a tordu le cou au droit de la coopérative de manière étonnante. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité au départ. Pardon.
Non, je voulais terminer en phrase. Mais mon bénéfice pourrait très bien être qu'il n'y ait plus d'SD.
Oui.
En tant que bénéfice, une lettre.
Oui, vous pourriez aller jusque-là. C'est vraiment...
Attendez.
Allez-y, je vous en prie.
Ça, c'est vu dans la perspective de l'Église catholique et de l'enseignement de l'Église catholique sur l'économie. Elle enseigne que constituer une entreprise au sens qui est pour faire, je vais utiliser des mots extrêmement exagérés, pour faire le royaume de Dieu ici sur terre, c'est un bénéfice que l'on peut poursuivre et donc qui est tout à fait louable, pour lequel on peut organiser une entreprise SA.
Si vous voulez, on pourrait aller dans ce sens, de dire que quand le législateur a écrit dans le but de procurer aux associés un bénéfice direct ou indirect, que ça peut couvrir la satisfaction qu'il a de voir le besoin de l'autre rempli. Je pense qu'on est très loin, ça demande vraiment très loin du texte. Nous avons des générations derrière nous que nous avons envie de voir entreprendre. Si on pouvait leur donner une explication moins compliquée, je crois que ce serait quand même mieux. Je pense que ce n'était vraiment pas l'esprit du législateur. Je dirais aussi que même si on allait dans votre sens, je pense qu'à partir du moment où je veux poursuivre dans mon esprit, quand je poursuis un but social, ce qui va importer, c'est la perception par la personne qu'il reçoit de la satisfaction de son besoin. Autrement dit, le critère ne doit pas être ma perception de ça, de l'adéquation du service à son besoin, mais doit être sa perception. Le récipiendaire du service doit être celui qui, vous voyez, ça c'est un point important qui met en place toute une dynamique. Et je pourrais, par ce biais-là, si j'allais plus loin, revenir à votre référence à l'Église catholique en me fondant sur des pensées comme celle de Lévinas ou comme celle de Ricoeur, plus particulièrement, hein, soi-même comme un autre. Donc j'irai de toute façon, vous voyez, vers ce type de... C'est là où il y a une dynamique extrêmement intéressante qui se met en place. Bien. Donc, nous étions sur cet instrument nouveau. Alors, dans votre... je disais qu'il n'était pas couvert par la définition de l'article 1er du Code des sociétés. Vous avez un troisième alinéa. Dans les cas, la première fois que je l'ai découvert, j'étais très content. Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Donc vous avez ce que nous n'avons pas. Je crois que ça date, si je me souviens bien, de 95. Je pense 95. Oui. Vous avez cette possibilité, hein, donc là, apparemment le législateur a pensé qu'il y avait une nécessité puisqu'il a rajouté cet alinéa. L'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial. Bon, alors c'est intéressant parce que d'abord c'est étonnant de la manière dont c'est rédigé puisque c'est par la négation. Vous pouvez ne pas faire cela. On ne dit pas ce qu'on peut faire, mais vous pouvez ne pas faire cela. C'est un peu étonnant. Et ce qui en revanche, ça c'est étonnant, mais ce qui en revanche pour moi ennuyeux, et je comprends, j'expliquerai après, c'est que c'est le début de la phrase, c'est uniquement dans les cas prévus par le présent code. Et il y a à ce moment-là un cas qui nous intéresse, le cas prévu là nous amène à un article qui est un peu plus loin, qui est une société, l'article 661. Donc, sont appelées sociétés à finalité sociale. Alors, moi, j'étais très heureux en découvrant ça. Sociétés à finalité sociale, vous voyez que vous êtes tout à fait précurseur ici. Lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leur statut. Et malheureusement, donc, c'est la création de la société à finalité sociale. Mais c'est là où mon enthousiasme m'a baissé. C'est qu'ensuite, il y a 9 conditions à remplir, malheureusement. Et ce qui est, donc, c'est effectivement une loi de 95. Et c'est une loi qui va permettre la création de ces sociétés qui ont une finalité autre, ça c'est, mais qui sont en fait malheureusement extrêmement réglementées et qui prévoient, notamment dans les conditions, il y en a une, prévoir les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé. Autrement dit, on revient à un mode d'organisation sociale. Donc, on dit, vous pouvez avoir une finalité sociale à condition que vous ayez une organisation sociale. Donc, c'est tout à fait intéressant. C'était, à mon avis, très précurseur. Mais pourquoi s'être arrêté en chemin et n'avoir permis cette finalité sociale que lorsque, d'abord par exception, par opposition et finalement dans un cadre extrêmement réglementé. Et cette société a connu assez peu de développement, enfin assez peu de prospérité, assez peu de développement chez vous. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai pas les chiffres. Oui, il n'y en a pratiquement pas, et c'est une société d'insertion plus qu'autre chose. Donc on s'attaque à l'article de base, l'article le plus important du code, et finalement pour ce pourquoi je dis, ça me permet de faire évidemment une transition, c'est que les codes des sociétés prévoient qu'on puisse constituer une société, soit en vue effectivement de partager un bénéfice, soit en vue de répondre, de poursuivre, soit en vue de poursuivre un intérêt social ou de répondre à un besoin social. Enfin, après, c'est une question de formulation. Ça peut paraître un débat de juriste, ça peut paraître anodin, ça peut paraître formel, ça ne l'est pas du tout, ça ne l'est absolument pas. Nous disons à tous les gens qui sont derrière nous, à tous nos jeunes, vous ne pouvez aujourd'hui, ça c'est le premier point, c'est symbolique, vous ne pouvez aujourd'hui construire une société que vous partagez le profit. Bah, quand même, à côté de ça, on a des quantités de débats sur la RSE, j'y viendrai dans un instant, maintenant sur la mission de l'entreprise, hein, c'est quelque chose de très intéressant, la mission de l'entreprise qui apparaît dans les débats depuis quelques mois, c'est tout récent, très bien ce que c'est. Et on ne s'attaque pas à ce code. Pour moi, la modification de cet article, que je suis sûr que nous allons pouvoir faire en France, et je m'y applique beaucoup, et a une portée symbolique. Alors revenons donc, le jour où cette modification est faite, à ce social business qui se développe. Alors, des social business, il y en a maintenant des quantités. En Angleterre, où on arrive...
Une petite question. Si on dit, voilà, l'entreprise ne peut plus avoir pour seul but le profit, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement utiliser une association sans but lucratif?
Bien sûr, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi pas faire ce que j'appelle le social business dans le cadre associatif? Absolument. Mais rien ne l'interdit. Et pourquoi pas le faire? Mais pourquoi forcer les gens à le faire dans le cadre d'une association? Je vais retourner votre question. On peut très bien faire du social business dans le cadre d'une association. Mais, première question que je pose, puisqu'on donne cette possibilité, pourquoi ne pas la donner aussi dans un cadre d'une société, tout bêtement?
On peut appeler la société sans but lucratif, si on veut, mais ça ne change rien.
Si, ça change beaucoup, ça change quand même pas mal de choses. C'est que, si vous voulez, l'instrument associatif est structuré de manière extrêmement différente de l'instrument société. Moi, ce qui m'intéresse dans le social business, c'est véritablement un mode de gouvernance entrepreneuriale. C'est une entité qui a un projet et qui veut le conduire avec le profit comme moteur. Il va réunir des capitaux. Il fonctionne véritablement comme une entreprise traditionnelle. Il va réunir des capitaux, va chercher à pérenniser le projet sur la base de la rentabilité. On est dans une logique très différente de celle de l'association. Je peux le faire dans le cadre de l'association, mais dans l'association, j'ai quand même un homme, une voix. Un principe d'un homme, une voix. Alors, je peux le tordre. Enfin, c'est pas fait pour. Je n'ai pas de délégation. La structure, il n'y a pas de structure dans une association. Elle est extrêmement souple, on peut faire ce qu'on veut. Mais je n'ai pas toute cette aide d'une structure maintenant formée depuis des décennies qui est celui de la société, où j'ai un dirigeant d'entreprise qui peut réagir, prendre des décisions. Il est intéressant, me semble-t-il, à deux niveaux, mais parlons d'abord au niveau de l'action sociale, qu'il y ait, dans le cadre des acteurs de l'action sociale, l'entreprise également, enfin une possibilité d'utiliser la structure de l'entreprise, c'est-à-dire qu'un dirigeant qui a réuni du capitaux, qui est allé et qui va poursuivre un but social. Il peut choisir l'association, mais il fonctionnera très différemment. Par ailleurs, enfin pour rester sur ce sujet, l'association dont je ne suis pas... on a un autre problème ensuite, c'est que l'activité qui reste quand même lucrative, hein, même si ça n'est pas son but, elle reste quand même lucrative, ne peut pas être, en tout cas dans l'association française, l'objet principal de l'association.
Bien sûr.
Donc, là, je parle vraiment d'autre chose. Je parle d'un entrepreneur. Il est entrepreneur, le même que celui qui voulait lancer, il y a 10 ans, une affaire de revente d'ordinateurs. Il vient avec la même logique entrepreneuriale, mais aujourd'hui, il va poursuivre un but social au sens très, très large du terme. Au sens très, très large du terme. Et le profit, qui avant était donc la finalité de l'entreprise, devient le moyen de l'entreprise.
Vous avez des exemples?
Oui, j'ai des exemples. Alors, j'ai des exemples, je vais prendre parce qu'il permet ensuite d'aller plus loin, je vais prendre malheureusement celui que j'avais pris hier soir. Dans le livre, vous avez des encarts, il y a de très nombreux encarts, avec chaque fois de très nombreux exemples. Des exemples, alors si vous voulez, d'initiatives individuelles, petites choses, des petites affaires où la distribution de chocolat en France, par exemple. J'ai des quantités d'exemples, mais je vais vous prendre un exemple dans un domaine, parce qu'il va nous ramener à notre sujet qui a été lancé par une... Ben, je vais prendre un exemple qui a été lancé par une grande entreprise qui est Danone. Danone a rencontré le professeur Yunus, prix Nobel de la paix, grand homme du social business, si je puis dire, grand penseur du social business.
L'économie, je crois.
Pardon ?
Prix Nobel d'économie, je pense.
Oui, en 2006.
Ouais. C'est l'économie, parce que j'ai lu. Oui, parce que tout d'un coup, mais c'est ce que je pense.
Non, c'est pas l'économie.
Je pense que c'est la paix. Non, je pense que c'est la paix.
C'est la paix, ouais. Prix Nobel de la paix.
Je pense aussi. Il est économiste.
On va dire l'économie, la paix.
Oui, non, mais parce qu'il est.
Non, mais de toute façon, j'ai vérifié.
Et vous l'avez vérifié? Non, parce que j'ai lu récemment, enfin, je n'avais pas fait très attention, mais j'ai bien lu récemment que, quelque part, c'était le seul économiste qui a reçu le prix Nobel de la paix.
Oui.
Donc, ça que je. Mais alors, sauf si certains font. Bon, il faudra les vérifier.
On s'en fout.
Bon, mais qui représente à lui-même, enfin, qui est l'icône, l'icône du social, l'icône vivant du social business. Bon. Et ils sont partis du constat. De la malnutrition des enfants au Bangladesh et ont décidé, ils ont créé une filiale commune, c'est ça le social business, hein, c'est celle-là, qui a pour but de produire un yaourt adapté à cette frange de la population, c'est-à-dire des enfants de familles ayant peu de ressources. Et ayant une très mauvaise nutrition, donc un yaourt qui soit particulièrement adapté pour les enfants.
Donc, on pourrait le voir comme ça, une diversification de Danone.
Oui, oui, mais
je vais venir à cela.
On va tout à fait y venir. C'est un sujet. Vous allez très vite, mais c'est le sujet. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que. Ils sont partis, ils ont fait le cheminement inverse de celui qu'on fait d'habitude dans une entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont partis du bénéfice, enfin du sujet qui va, oui, mais de celui qui va finalement manger le yaourt, essayer de comprendre quel est dans sa famille le coût, le prix qu'ils pourront payer. Ils sont partis, mais quel est le prix disponible pour cet achat? Et quelle est la composition idéale du yaourt? Et à partir de cela, la démarche est extrêmement importante quand on prend la démarche intellectuelle. Et à partir de là, ils ont remonté. Ils ont regardé quel type d'usine construire, usine qu'ils n'avaient jamais construite. Il fallait des usines très légères, avec peu de production, des usines très petites, quelque chose qu'ils ne connaissaient absolument pas. Ils ont dû chercher un moyen de distribution. C'est pas simple, on le dit peut-être facilement, mais. Si je mets ce yaourt dans le carrefour du coin, il y a assez peu de chances qu'il aille chez cet enfant. Donc, ils ont pensé tout le mécanisme de distribution, de production, d'achat auprès des fournisseurs, de financement de l'activité. Je vais y venir. Hein. Comment financer cette activité? C'est extrêmement, extrêmement important. Pour arriver à quelque chose qui aujourd'hui fonctionne. Selon un principe qui est il n'y a pas de dividende, l'idée est de ne pas faire de perte, pour que le projet soit pérenne, no loss, no dividend. C'est le principe de ce projet-là, enfin, no loss, no dividend. Donc, c'est quand même assez structurant comme projet, c'est quand même très très novateur. L'entreprise n'avait jamais, celle-là ou d'autres, n'avait jamais suivi ce type de démarche. Parce que vous vous rendez compte de tout ce que ça implique dans la vie de l'entreprise de faire cette démarche à rebours. C'est tous les. Imaginez un instant comment fonctionne le vendeur de yaourt, celui qui a la. Qui est en charge de Marseille Nord, plutôt de Marseille Nord pour Danone, pour vendre les yaourts, je pense qu'il fonctionne assez différemment dans sa tête. Il fonctionne assez différemment. Donc, en tout cas, ce social business, revenons à lui d'abord, on viendra à Danone après, procède d'une logique dictée par cette inversion des priorités qui me paraît extrêmement intéressante. Et je voudrais m'arrêter un instant là-dessus parce que ne sous-estimons pas la nouveauté que cela représente. Au lieu d'être dirigé par la croissance d'optimisation du profit, je suis dirigé par la satisfaction d'un besoin social. J'ai toute une logique différente qui se met en place, qui ne m'empêche pas de faire un profit. Mais ce profit sera, il représente, je dirais quasiment, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure Laurent, il représente une contrainte dans la manière dont je vais rendre le service. Et c'est vraiment comme ça que c'est vécu, quand je vois les gens qui mettent en place, c'est vraiment ainsi que c'est vécu. faire un profit, c'est une contrainte que je dois ajouter à d'autres contraintes de manière à devenir pérenne. Et je pense que si je regarde maintenant l'aspect du côté action sociale, il n'est pas inintéressant du tout. C'est en tout cas ce que me disent les spécialistes, les gens qui sont quotidiennement dans l'action sociale. Il n'est pas inintéressant du tout d'avoir parmi les acteurs sur ce marché des gens qui fonctionnent de cette manière-là. Et ça c'est quand même très nouveau. Oui.
Quelle est la différence avec ce qu'on appelle l'économie de la demande au lieu d'avoir une économie de l'offre? Nous voulons développer une économie de la demande, c'est-à-dire que les opérateurs, producteurs, là, écoutent ce qu'on veut et puis le font. Danone l'a fait pour les enfants du Bangladesh qui avaient besoin de yaourt particulier compte tenu des circonstances. Cartier pourrait le faire pour les riches qui ont besoin d'eau de lavande particulière, en fait.
Oui, enfin, d'abord, je crois que l'économie de demande, l'économie de l'offre, c'est plus un concept effectivement macroéconomique, d'une part, question de stimulation, question de politique aussi publique. Politique publique, est-ce que je stimule l'offre, est-ce que je stimule la demande? Après, qu'il y ait une perception, bien sûr, qu'il y ait par l'entreprise une perception de l'attente de ses consommateurs, c'est certain, je pense qu'elle est en généralement assez, si vous regardez.
C'est pas ça que je veux dire. Il y a des gens qui promeuvent ce qu'on appelle l'économie de la demande et qui disent par exemple à la radio, c'est plus les producteurs qui vont faire de la publicité, ce sont les demandeurs qui vont faire.
Oui.
Nous avons besoin de ceci, hein, au Bangladesh, etc.
Très bien.
Des producteurs.
Oui, mais oui. Pardon, bon, Laurent. Oui.
Bon, je proposerais qu'on relègue cette question peut-être au débat par après, parce que je pense qu'il faut rester dans un premier temps sur les distinctions qu'apporte Daniel sur la logique implicite dans le social business versus l'économie capitaliste. Après, on pourra revenir, à mon avis, sur l'économie de la demande, mais ça me paraît moins crucial.
Peut-être expliquer le financement de cette société.
Alors, sur le financement, si... Donc, elle fonctionne, la société, l'ASB fonctionne, mais le social business fonctionne donc selon une forme juridique, selon une des formes juridiques habituelles du droit commercial, la SA, la SARL, enfin, elle choisit la forme qu'elle veut. Encore une fois, juste pour mémoire, rien n'empêchera l'entrepreneur qui a ce projet-là de prendre une forme d'organisation de l'économie sociale traditionnelle. Rien ne l'empêchera de faire de la coopérative. Alors, pour moi, ce sont deux questions à deux niveaux différents. D'accord, c'est très, 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 très important de le comprendre. Bien. Alors, donc il doit réunir des capitaux, il va avoir une structure, il devrait a priori avoir une structure de bilan comparable à celle de toute autre société, mis à part qu'il devrait peut-être prendre moins de risques, donc il devrait avoir un endettement peut-être plus mesuré. Là-dessus, il ne s'agira pas d'aller réglementer tout ça, il s'agira simplement, les choses se font d'elles-mêmes, à partir du moment où, je reste encore une seconde là-dessus, il faut penser que chaque personne qui travaille dans un social business a comme but, le but de la société, c'est de rendre le service d'intérêt social. Et je pense que toute une série donc, de décisions se prendront en conséquence. Comparons cela à la société traditionnelle, surtout, je parle là des grandes sociétés, cotées, où au quotidien, je voudrais que vous ayez bien en tête, pour voir la nouveauté de ceci, le fonctionnement habituel de la société traditionnelle, surtout si elle est cotée, surtout en temps de crise, où j'ai la rencontre avec mes actionnaires à chaque publication de compte, à chaque profit warning. Vous avez probablement déjà vécu le stress que représente dans une entreprise le profit warning. Profit warning, c'est-à-dire la nécessité. Je reviens à cela parce que ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de montrer la nouveauté, que vous voyez bien la différence de comportement que cela peut induire. Et dans une société traditionnelle. Moi, je parlais par exemple hier à une grande société française pour laquelle les anticipations des analystes ne vont pas être respectées. On sait aujourd'hui que la société sait que le marché, c'est-à-dire les analystes, s'attendent à un profit de, un chiffre d'affaires de. Et puis ils voient chaque mois, quand ils se rapprochent de la publication des comptes, qu'ils ne les tiendront pas. Et c'est au quotidien la question, est-ce qu'on doit sortir un profit warning ou pas? On a déjà fait un profit warning il y a deux mois, est-ce qu'on doit en faire un nouveau? Ça va avoir un effet catastrophique sur le cours de bourse. Enfin, ça, c'est la réalité de l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter le profit warning? Quel bien est-ce que je peux, enfin, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller voir les comptables, dans quelle mesure est-ce que je peux arranger les choses, reporter telle décision. Enfin, donc là, la pression, et cette pression, elle va très bas. Bon. Elle va très loin. Alors, je reviens donc à la question du financement. J'aurais donc quelles sont les sources de financement qui existent aujourd'hui. Soit il s'agit de produits, de projets modestes, ce qui est bon, souvent le cas, ou peut-être des friends and family qui s'y collent. Soit c'est souvent les grandes entreprises qui maintenant de plus en plus sont prêtes à allouer une partie de leurs fonds à ces projets-là, soit des projets qu'ils conduisent eux-mêmes, qu'elles conduisent elles-mêmes, soit des projets qu'elles ne conduisent pas, mais qu'elles financent. Ainsi, par exemple, pour reprendre l'exemple de Danone, ils ont créé un fonds de donation de 100 millions, une centaine de millions d'euros qu'ils ont prélevé sur leurs réserves avec l'accord de leurs actionnaires. Donc un fonds de donation qui va financer des projets. C'est Schneider qui a un fonds de 20 millions d'euros, je crois, par exemple, qui est géré de manière indépendante à côté de Schneider. Donc là, il y a des fonds qui viennent de ce côté-là. Ensuite, il y a l'épargne privée. Alors, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est qu'il y a une demande de la part des épargnants personnes physiques que dans la palette des investissements proposés par leurs gérants, il y ait ce qu'on appelle l'épargne, des projets d'épargne solidaire, bon, pas social et solidaire. Et ce qui se développe beaucoup actuellement en pratique, c'est le 10-90. Je mets 90% dans des projets normalement rentables et j'accepte que 10% soit à rentabilité réduite. Ça c'est vraiment le 90-10. Ça m'amuse d'ailleurs parce que c'est très pragmatique. On voit à quel point le marché répond, très amusant, répond de manière pragmatique à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il voit sur un projet de social business? Il voit soit une rentabilité de zéro. Zéro, oui, c'est pas dividend, hein, de lost dividend, si on est dans le dogmatisme de Yunus, mais il y a des projets qui distribuent des dividendes. Mais ce sont des dividendes généralement capés dans la pratique, on est à 4-5%. C'est assez amusant, très vite ça s'est fait, très naturellement, que les gens proposent 90-10. Donc 90 dans du rentable, 10. Alors vous allez dire, on n'a pas transformé le capitalisme. Non, on n'a pas transformé le capitalisme, on a créé quelque chose qui est intéressant. Il y avait des France à 10% d'épargne privée, c'est des choses gigantesques.
Au fond, est-ce que la question n'est pas de savoir s'il ne faut pas éduquer les gens qui détiennent le gros capital? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écoles de management, mais enfin, on sait bien qu'en réalité, les managers sont des prolétaires au sens latin, c'est-à-dire des gens qui doivent travailler pour vivre. Bon. Et en réalité, ils sont obligés évidemment d'accepter ce que leur dit le capital. Et donc, il faudrait au fond des écoles de capitalistes au même titre que des écoles de managers. Mais ça, il n'y a pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut remettre. Non, je crois que ce n'est pas la même chose. Je crois que ce n'est pas du tout la même chose, parce que je crois que les managers n'ont réellement pas de pouvoir. Alors, ce sont ceux qui détiennent le capital qui en tiennent le pouvoir.
Alors, bon, vous avez évidemment raison, et je crois qu'on peut aller vers cela sans forcer ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre d'aller à l'école. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple des 100 millions de Danone, le DGA de Danone est allé voir Fidelity, est allé voir l'ensemble des grands investisseurs institutionnels, leur a expliqué pourquoi, on va revenir à votre point, pourquoi peut-être c'est bon pour l'image de Danone, hein, on va revenir à ce point-là, pour quelles raisons le font-ils, mais l'a expliqué et ça a été accepté. Autrement dit, c'est par la dissémination de l'information, par les exemples réussis, et réussis veut aussi dire qu'ils ont un terme, hein, ça c'est très très important. Le projet de social business doit avoir, comme l'entreprise aurait dû avoir, mais ça c'est largement oublié, c'est Schumpeter, mais a une durée de vie limitée. Quand le but c'est de remplir le besoin, et quand le besoin est rempli, normalement on arrête. C'est un élément très important. Bon. Mais d'éduquer l'actionnaire à accepter un rendement qui ne soit pas de 15, mais qui soit inférieur, c'est effectivement important. Enfin, le manager devient parfois le capitaliste, et le manager parle au capitaliste, donc formons déjà les managers, ce qu'on ne fait pas du tout, mais vraiment pas du tout actuellement dans nos écoles. Bon, alors, je reviens juste pour être un peu plus précis sur le financement. Donc on a, mais voilà à peu près ce qu'il y a, sachant qu'on n'est pas dans l'économie du don, hein, que je ne le fais pas. Il peut y avoir en plus du don, de la philanthropie, que ça peut en avoir, mais a priori, ça vient en plus et ça n'est pas l'objet. Sur les dividendes, les Anglais ont créé un régime particulier, un label. Il n'est pas, il est toujours très pragmatique, les Anglais. Ils ont créé un label qu'ils appellent donc le label CIC, Company of Community Interest, qui est tout à fait dans ce dont nous parlons. Ça ne signifie pas que si vous voulez avoir une finalité sociale, vous devez être une CIC. Hein. On n'est pas dans l'exemple de la réglementation belge que je vous ai donné tout à l'heure. C'est, vous avez une finalité sociale, vous voulez avoir le label CIC parce que ce sera plus facile d'obtenir l'accès à des public procurements, à des appels publics. Il y aura un certain nombre d'avantages. Il n'y aura pas d'avantages fiscal d'ailleurs, à ma connaissance. Mais vous avez une reconnaissance qui permet de... reconnaissance. Alors, donc ils ont créé ce label, le label du CIC. C'est assez intéressant. Alors, eux ne demandent... Ils font ce qu'on appelle l'asset lock. Alors... Là, je vais expliquer dans un instant ce que c'est. Eux ne demandent pas que le capital ne soit pas rémunéré. Je pense qu'ils ont raison. Mais ils demandent que la rémunération du capital soit limitée à un taux qui est du calcul de manière un peu compliquée par rapport à un taux de base de la Banque d'Angleterre, bon, et qui est un taux aujourd'hui, enfin, aux alentours de 4% aussi, toujours vers le 4%. Et ensuite, ils ont le principe de l'asset lock, c'est-à-dire je ne dois pas pouvoir, moi l'actionnaire, par la rémunération, par du rachat d'actifs de la société, pouvoir appréhender la valeur créée. C'est non seulement donc le dividende qui est limité, mais c'est aussi une interdiction totale d'appréhender la richesse que j'ai créée. Parce que elle est... Là, on va assez loin, on va plus loin que le social business. Hein. C'est un stade plus loin. C'est la création de richesse est allouée à la community qui bénéficie du service et elle doit lui rester acquise de manière définitive. C'est quand même assez intéressant. Hein. Là, on s'éloigne un peu. Enfin, c'est une sous-catégorie pour moi du social business. Ça. Alors, ça veut dire qu'en cas de liquidation, il y a l'actif doit être forcément cédé soit à une autre CIC, soit à une fondation. Enfin, c'est parfaitement réglé. Je ne peux à aucun moment avoir une appropriation.
Mais cette CIC, une fois qu'on a le label, on peut après s'en défaire ?
Oui, on peut s'en défaire. C'est-à-dire que ce qui va se passer... Non, la société elle-même restera CIC toujours. En revanche, l'actif peut être cédé... L'actif peut être cédé à un tiers de l'économie traditionnelle. Okay. Le produit de la vente doit rester affecté à la community. Par exemple, il y avait une association assez importante en Angleterre qui venait plutôt dirigée vers les sans-abri. Et ils ont mis en place une CIC. Ils ont vu qu'un des problèmes, alors, pas tout à fait le détail, mais un des problèmes, c'était l'enlèvement des déchets dans une zone défavorisée d'une ville. Et ils ont mis en place un système d'enlèvement des déchets parce que ce n'était pas des déchets ou une zone prise en compte par les acteurs traditionnels, enfin l'économie traditionnelle. Donc ils ont monté ça, et puis ils ont monté ça de manière extrêmement efficace. Et c'est devenu une activité pérenne avec un vrai savoir-faire. Eh bien, ça a été vendu. À un moment donné, ils se sont dit, maintenant, c'est plus... on quitte. C'était l'association qui avait créé... C'est pour ça que l'association... On reparlera de l'interaction avec l'association. Et c'est l'association qui avait créé la CIC. Puis à un moment donné, elle s'est dit, maintenant, ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi je suis là-dedans. Ça n'est plus mon métier. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour venir en aide aux sans-abri. Donc, ils ont vendu cette activité-là à une société traditionnelle qui a été intéressée par le savoir-faire développé là et qui du coup effectivement pénétrer un marché plus bas, si je puis dire. C'est tout à fait intéressant. L'argent évidemment récolté ne peut pas être approprié de manière privée. Vous voyez qu'il y a une souplesse là qui est vraiment intéressante.
Sur les sources de financement, on peut peut-être aussi mentionner l'État.
Oui, absolument. Mais j'allais revenir, effectivement, tu as raison, aux sources de financement. Donc, effectivement, l'État, alors pour l'instant, assez peu, mais il y a la fameuse en France promesse de M. Sarkozy de l'accès aux fameux 100 millions du plan de relance. Il faudrait peut-être, ça on y viendra peut-être un peu plus tardivement, mais en Angleterre, il y a le programme Big Society de M. Cameron, quand il est arrivé, qui a l'intention de se reposer très fortement sur social business, il y en a l'équivalent chez M. Obama. Dans le rapport qu'a fait Mme Boutin au président Sarkozy pour la présidence du G20, pour les propositions qu'il lui a demandé de faire pour sa présidence du G20, il y a, pour le social business, qui est une des quatre propositions qu'elle fait, la promotion du social business, il y aurait la mise en place d'un fonds, un fonds international, qui serait un genre de réservoir, notamment à disposition des entreprises qui pourraient bénéficier d'une somme de X si elles mettent une somme de 2X ou de 3X sur un projet. La manière dont c'est structuré, c'est donc, j'ai un fonds, enfin, dont on peut le structurer, nous, on le fait beaucoup sous forme de SAS à capital variable. Donc, des équivalents de SICAV, des SAS à capital variable, de manière à pouvoir facilement ramener l'argent vers les investisseurs qui investissent. Soit j'ai une grande entreprise, ça va y aller, soit j'ai une association qui est à l'origine du projet. L'association est à l'origine du projet, elle crée une SICAV gérée séparément. Et la SICAV elle-même détient les sociétés d'exploitation du social business. Et ensuite, il y a un contrat de collaboration entre l'association et les différentes SB. C'est de cette manière-là que les projets sont structurés actuellement. La SICAV pouvant elle-même n'investir qu'une partie de ses fonds dans les social business de manière à retrouver le 90-10 dont je parlais tout à l'heure. L'épargne solidaire aussi. L'épargne solidaire des grandes entreprises. Les entreprises qui doivent mettre en place des plans d'épargne solidaire proposent maintenant ce type de produit. Et ça marche très bien. Et c'est également des fonds très, 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 très importants.
Si on examine le financement, merci d'avoir donné ces informations. Comment s'organise le pouvoir? Comment est-il exercé? À qui est-il confié? Et sous quelle modalité?
Alors, le pouvoir...
subsidiaire, est-ce que les organismes financeurs ont des cadeaux par lesquels ils peuvent exercer le pouvoir?
Alors, je dirais que la première réponse que je ferai, c'est que vous pouvez... Le droit des sociétés vous donne toute la souplesse qui va vous permettre de vous adapter aux particularités de chaque situation. Vous pouvez donner... Alors, Il y a vraiment des quantités d'exemples différents. Il y a des exemples où il y a des catégories d'actions différentes, actions sans droit de vote. Et, alors, vous voyez, là, on revient aux questions de gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous pouvez très bien avoir le pouvoir appartient aux actionnaires, donc notamment aux financiers, notamment. Ça dépend comment est structuré mon capital. Ou vous pouvez dire à l'organisme financier, rentrez, mais vous n'aurez pas le pouvoir. Je ne vous donne que des actions sans droit. C'est la souplesse. Je crois que là, il faut surtout ne pas être... Moi, je ne suis pas choqué par le fait que le pouvoir appartienne aux gens qui apportent de l'argent, sachant que, néanmoins, sachant que on est dans un contexte où... On est dans un contexte extrêmement différent de celui d'une société traditionnelle, où l'intérêt social, c'est-à-dire l'intérêt de l'entreprise, c'est la maximisation de la shareholder's value. Donc ça, c'est le système. Bon. Ici, j'investis dans une société en sachant que son but est de rendre un service à un tiers. Comprenez bien que je n'ai plus du tout le même pouvoir, parce que je ne suis plus du tout dans la même logique, même si j'exerce le pouvoir de changer le dirigeant. Je ne peux pas lui demander, il n'a pas à me rendre compte sur la maximizing shareholders value. Je suis dans une... Ce que je veux dire, et ça c'est un point très important, c'est que de mettre en place cette logique de la poursuite de l'intérêt social a une répercussion en chaîne d'un bout à l'autre, y compris sur le rôle de l'actionnaire. Très forte, très forte.
Et c'est là précisément que tu fais la différence avec les associations, les coopératives, qui, elles, partent d'une autre logique de gouvernance,
absolument,
effectivement,
absolument,
et qui limite très fortement cette flexibilité qu'il y a dans la société de type traditionnel.
Totalement, totalement. Si vous lisez, la SCIC, par exemple, nous avons une SCIC, nous avons une SCOP. Mais la SCIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui en soi, l'idée est intéressante, hein. Mais si vous lisez la loi, il faudra un très très bon juriste pendant pas mal d'heures pour la comprendre. Et nous avons, je dis ça, mais parce qu'on n'y comprend vraiment plus rien, parce qu'il y a des collèges, il faut forcément que l'actionnaire soit dans un collège, les employés, les clients, enfin, c'est effroyablement compliqué. D'ailleurs, il n'y en a pas. Pas compliqué, il n'y en a pas. L'idée est intéressante sur un papier, mais personne, les gens ont envie de développer, parler aux jeunes autour de vous. Ils voient un projet, ils ont envie de le faire, il leur faut une solution simple qui leur permet de le faire. Ils ne vont pas aller voir un avocat d'affaires pour qu'il leur explique ou un législateur qui leur explique comment faire la SCIC. La CIC, elle a été créée en 2005, il y en a, une souplesse est superbe, et il y en a aujourd'hui plus de 5000. Il y a plus de 5000, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a plus de 5000 avec quand même des échecs nombreux, hein, c'est pas parce que l'idée encore une fois est généreuse, qu'elle est rentable et qu'elle va réussir. Donc vous voyez le nombre de créations qu'il y a eu, je ne sais pas exact, enfin je l'ai quelque part, le nombre d'échecs, le nombre de fermetures de CIC, mais il doit être aux alentours de 1000. Donc on est
c'est une simple attestation de good boy en fait.
Oui, mais avec la set lock. Avec l'asset lock, il faut quand même réfléchir deux fois. Vous ne vous enrichirez sérieusement jamais. C'est un choix. C'est quand même un choix. C'est quand même contraignant. Vous pouvez avoir un dividende. Moi, il me semble extrêmement... Là-dessus, je suis, si je puis me permettre cette phrase présomptueuse, mais en désaccord total, en désaccord avec Unus sur le fait que lui, le dogmatisme du no-dividende me paraît une erreur. Le capital a un coût, il faut du capital pour faire une société, c'est un coût comme un autre. Je ne vais pas, parce qu'il y a eu des excès par ailleurs, maintenant pénaliser, je ne vois pas d'où ça vient, c'est un coût. Je rémunère la banque qui me prête de l'argent, et pourquoi ne rémunérerais-je pas le financier qui investit de l'argent et qui accepte des contraintes plus fortes que la banque. Enfin, pour moi, c'est à contresens, il doit y avoir un dividende. Et on voit que les projets qui acceptent les dividendes, bon, on m'a fait des comparaisons récemment entre des projets très comparables, enfin très, très, très similaires entre la France et la Hollande, des projets qui acceptaient une distribution de dividendes, les fonds drainés sont beaucoup plus importants.
Oui, ce qui est important, c'est de mettre une sorte de cap, quel qu'il soit,
voilà,
à la poursuite de la maximisation sans limite du return sur le dividende. C'est ça, fondamentalement.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit au détriment d'autres choses.
Voilà,
exactement. Le profit n'est pas un problème. Le profit n'est un problème, et même un profit important. N'est un problème que si c'est au détriment
d'autres choses.
De la planète, au détriment des gens qui travaillent, au détriment de l'intérêt supérieur.
Et c'est là qu'on retrouve. C'est parce qu'il manque logique.
Et c'est là, à mon avis, que se pose le problème, parce que, comme nous en parlions l'autre jour avec le noir, c'est que le problème, c'est que les États ont perdu le pouvoir. Et que maintenant, au fond, c'est la finance qui a repris tout à fait le pouvoir. Au fond, on assiste à une nouvelle féodalité. Mais c'est ça, hein.
Je le vite là.
C'est le seigneur féodaux de pognon.
Alors,
et c'est ça le problème.
Quand on, peut-être pour ça nous permet de faire une transition, peut-être, et de quand on dit que la finance a pris le pouvoir, je dirais, nous autres, nous tous, épargnants, exerçons une pression sur les entreprises qui n'existaient pas auparavant, qui a amené aux dérives qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est tout simplement parce que, mais là on pourrait en analyser beaucoup plus près les raisons, mais tout à l'heure quand je donnais l'exemple de mon dirigeant qui est inquiet par son warning, par son profit warning, à partir du moment où l'actionnaire dit si je n'ai pas un retour de 15%, enfin si j'ai mieux à côté, je vais à la seconde qui suit à côté, et on met les entreprises quand même dans une position extrêmement difficile. Elles ont besoin de capitaux. La fluidité, la fluidité des marchés, l'efficience, hein, l'efficience des marchés dans la logique du profit uniquement, mais l'efficience des marchés, les techniques toutes les techniques qui sont développées les 20 dernières années, les produits dérivés font que je peux effectivement gagner, je peux gagner de l'argent, surtout si je ne travaille pas. En tout cas, c'est de l'argent que je gagne, la création d'argent, la création de richesse est infiniment supérieure à celle du travail dans mon entreprise. Et ça fait qu'on a eu une inversion, enfin, c'est toute une série de conséquences. Je ne pense pas, si vous voulez, que la voie qu'on a vu apparaître après la crise, qui est de dire qu'il faut réfléchir à la répartition des profits. Et vous avez comment des voix qui se commencent à se faire entendre, en France notamment, de la part de l'État, qu'il faudrait qu'on alloue le profit autoritairement un tiers. Bon. Moi, ça me paraît, si vous voulez, très 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 hésitant devant ce type de décision. Alors le profit resterait le but, hein, ça resterait. Voilà le gâteau, c'est tous réunis pour manger ce gâteau. Le but, c'est qu'il soit le plus grand possible. Maintenant, je vous préviens, voilà comment on va le répartir. Qui a l'autorité de faire ça? Ça ne me paraît pas une voie, si vous voulez, c'est une voie contraignante, coercitive. Je crois beaucoup personnellement dans la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre va avec la liberté de choisir les modes d'entreprise. En revanche, je pense, si vous voulez, encore une fois, que cette inversion de priorité est beaucoup plus riche par l'effet qu'elle a sur l'allocation du profit. Alors, peut-être pour ne pas être trop long, peut-être pour conclure sur quel est l'effet du développement du social business au-delà du social business, mais au-delà de l'intérêt d'avoir un acteur de plus sur le terrain de l'action sociale. Et je dis bien un acteur de plus, qui d'ailleurs, encore une fois, peut-être juste collabore généralement. Tous les projets un peu d'envergure sont des projets sont des collaborations entre les social business et les associations. Parce que l'association a un savoir-faire que le social business n'a pas. Le social business a une efficacité, une organisation qui est intéressante, et l'association a généralement une connaissance du terrain, une connaissance des... Là, par exemple, il y a un projet tout à fait intéressant qui est en train de se développer entre Blédina, les caisses d'assurance maladie et la Croix-Rouge, sur un nouveau type de lait, là aussi, même type de logique, un lait pas cher et pas nutritif pour les... Là, on est en France, pour la commercialisation d'un lait pour des femmes, enfin, particulièrement défavorisées. Bon. Ben, il faut les trois. Il faut les trois. Et Bélina seule n'y arriverait pas. La Croix-Rouge est extrêmement contente de participer à ce projet parce qu'elle voit, elle est très intéressée parce qu'elle voit la logique d'efficacité de Bélina, qui n'est pas son quotidien. Donc ça, ça l'intéresse dans, le, en fait, dans ce projet. Bélina ne peut pas le faire sans le savoir-faire à la Croix-Rouge et sans l'accès aux fichiers des caisses d'assurance maladie. Alors, voyez un peu les problèmes juridiques que ça va poser derrière. Hein, par contre, j'ai de l'accès à des données de l'État. Enfin bon, là, il y a vraiment des questions nouvelles, vraiment nouvelles et intéressantes. Et en ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais juste dire, c'est que l'émergence de ce nouvel acteur nous amène à réfléchir et à concevoir des partenariats, des collaborations entre l'État, le monde associatif et le monde de l'entreprise privée, tout à fait novatrices et tout à fait d'avenir. Tout à fait d'avenir. On sort d'un certain type de cloisonnement. Chacun apportant son savoir-faire. Il n'y a aucun projet. Bon. Alors, quel est l'effet pourquoi est-ce qu'on a pu écrire pour réformer le capitalisme, qui est un titre bien prétentieux. C'est que. Pour faire simple, et on pourra le développer, parce que je sais que Laurent. Challenge beaucoup sur ce sujet et il a bien raison, c'est que on introduit au cœur même du fonctionnement des entreprises capitalistes, au cœur même, une entité qui fonctionne de manière opposée. Et on ne peut pas aujourd'hui prévoir quels en seront les effets, ce que je veux dire par là, jusqu'où iront les effets. On est dans une logique radicalement différente d'une logique, par exemple, de RSE. Logique de RSE, et toute la réglementation, si je le prends par le biais de la réglementation de la RSE, c'est vous, entreprise, comment faites-vous dans votre activité pour prendre en compte l'environnement dans lequel vous travaillez. C'est ça la RSE, c'est dites-nous, dites à vos actionnaires, dites au marché, dites dans votre rapport, comment vous prenez en compte comment vous prenez en compte l'impact de votre activité dans son environnement. C'est une question importante, intéressante, et qui, dans certains cas, hier quelqu'un donnait l'exemple de Roxerox, tout à fait intéressant, qui peut aller très loin dans ses effets, mais c'est véritablement, si je le simplifie, si je vais au noyau, je continue mon activité, je suis drivé, conduit par le profit, mais voilà tous les éléments connexes que je mets en place pour minimiser. Voilà en tout cas ce que je vais écrire dans mon rapport, voilà ce que je vais faire au mieux pour minimiser mon impact, voilà au pire ce que je vais mettre dans mon rapport pour donner l'impression que je prends en compte. La RSE est quand même quelque chose qui est à côté de l'activité. Quand vous avez une décision une décision d'affaires sur un lancement d'activité, sur l'arrêt d'une activité, sur le directeur financier est là, moi je n'ai pas encore vu beaucoup dans les réunions le responsable de RSE. Mais surtout là, je vais un tout petit peu, j'exagère un peu, parce qu'il y a des choses très positives dans la prise de conscience. Et bien sûr, il faut l'encourager. Enfin, c'est quand même encore aujourd'hui beaucoup de la... du window dressing, c'est encore beaucoup quand même, la personne en charge de RSE, vous ne l'identifierez pas facilement dans une entreprise, si vous regardez déjà, elle va chercher, elle n'est pas loin du président, effectivement, c'est vrai, elle a un bureau pas loin, mais enfin, elle n'a pas d'équipe, elle n'est pas au conseil, elle n'a pas d'équipe, et elle n'est pas dans le cœur des... Bon. Ici, j'introduis une activité à côté, au même titre que mes autres activités, d'accord, au même titre, un jour, au même titre en termes d'importance, voilà. Aujourd'hui, les montants sont petits. Mais je dis, j'introduis une activité donc dans ce qui fait le fonctionnement même de l'entreprise et qui procède d'une logique infiniment plus riche, évidemment, infiniment plus riche. Je pourrais illustrer, on pourrait en parler si vous voulez, comment ceci va modifier les comportements plus largement. Là,
je ne sais pas si vous allez y venir, mais est-ce qu'on pourrait parler de la motivation de ces nouveaux entreprises?
Alors, la motivation, je peux simplement vous répondre, sociologue, simplement vous répondre ce que je vois. Ce que je vois, c'est que ce sont généralement des gens jeunes, même au sein des grandes entreprises, hein, puisque je reste un peu aujourd'hui dans ce contexte-là, pour des raisons évidentes. Il s'agit de gens jeunes qui ont... l'envie de, d'enrichir leur vie professionnelle. Et qui en sont très heureux. Et on voit que les écoles de commerce, par exemple, qui proposent des formations, maintenant ils ont tous leur chaire, ils ont toutes leur chaire social business, la demande va en croissant extrêmement rapidement. Que ce soit HEC, le SCP, chez nous, je prends pardon les exemples chez nous, mais je suis sûr que je pourrais, vous devez connaître les mêmes. Il y a un accroissement, on a les chiffres, je ne peux pas, j'ai dit, un accroissement de la demande pour ces formations-là extrêmement, extrêmement rapide, les gens comprenant très bien que ce ne seront pas les mêmes rémunérations. Les gens que je vois dans les grandes entreprises qui sont en charge de ces projets me disent, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis envié. Tout le monde veut, par exemple dans les autres activités, participer à l'élaboration technique financière de mon projet. Donc il y a un engouement. Je crois qu'il y a quand même, je crois que ça a été largement dit, une lassitude quand même devant certaines lassitudes croissantes devant la pauvreté de certaines vies professionnelles. Enfin, je pense qu'on rencontre tous de plus en plus de gens qui aimeraient. Moi, j'en rencontre quand même beaucoup, qui aimeraient avoir une activité qui est l'activité économique première de leur vie et plus riche que le budget mensuel ou hebdomadaire qu'ils doivent remplir. Donc cette motivation, bon, c'est aussi le pari de Yunus, hein, c'est le grand pari de Yunus. Il dit ben, bon, l'homme n'est pas unidimensionnel et il est plus heureux s'il participe à une création de bien-être plutôt qu'à la création de sa propre richesse. Je pense aussi, si vous voulez, je pense aussi que la création de richesse est quand même aujourd'hui tellement, grâce aux moyens technologiques, tellement plus facile qu'il y a une voie là quand même intéressante. Et je pense que certains social business marcheront vite, très bien, et arriveront à des niveaux de rémunération qui ne seront pas tellement loin de. Enfin, c'est la position du ministre. Lui, il dit, je paye des salaires comme au secteur privé.
Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une voie, quand je dirais, à côté des gens jeunes, d'âge jeune, pour les plus anciens, bien sûr, qui voudraient terminer en beauté,
bien sûr,
en mettant leur savoir-faire justement à une autre cause.
Bien sûr, bien sûr. Moi, j'étais avec l'ancien directeur général de la Société Générale il y a quelques jours, qui me dit, bah, il a quitté la Générale, il est rentré dans une association, et il n'y arrive pas parce qu'il trouve que ça manque d'efficacité et qu'il va créer
un social business,
bien sûr. Après, sur la motivation, peut-être ce que je dirais aussi, c'est que la motivation sera d'autant plus grande que les projets seront connus. Donc, c'est extrêmement important de disséminer l'information, ça va très vite en ce moment, et notamment pour revenir à la formation. Il faut qu'au stade de la formation, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est un peu affligeant. On voit effectivement des départements, des chaires de social business ou d'entrepreneuriat social. Bon, vous avez toute une série de gens qui vont avoir une formation assez bonne, assez intéressante. Mais, et puis vous avez ceux qui font de la finance, ceux qui font du marketing, etc. On reste dans le cloisonnement. Et moi, je vous espère. Connaissant un peu les écoles ou Sciences Po, je vois les élèves sortir, ceux qui sont qui représentent encore 90% des étudiants, formation éthique nulle, totalement nulle, inexiste. Alors avant, elle était propagée ailleurs qu'à l'école. Aujourd'hui, elle n'est plus à l'école, donc elle n'est plus en famille non plus. Et ça a deux inconvénients. Ça fait qu'ils procèdent toujours par ces fameux cloisonnements, si vous voulez, des plus grands défauts ou un des plus grands dangers, je pense, qui ont, quand vous leur demandez d'écrire un montage un peu osé, ils vous le décrivent, machin, les avantages, etc., avec le Luxembourg par-ci par-là, etc. Puis ensuite, vous leur demandez moralement qu'est-ce que vous en pensez. Et après, ils sortent des poncifs, c'est-à-dire qu'ils condamnent la chose, un niveau, si vous voulez, vraiment enfin, sans aucune articulation, des jugements moralisateurs, mais ils ne feront jamais le rapport entre le premier travail qu'ils ont fait, débauche du montage, et puis cette morale de quand même assez faible. Et je pense qu'il y a je suis persuadé qu'il y a dans cette démarche, dans cette inversion de démarche dont je parle de social business, qui est, surtout si on la pousse loin, c'est-à-dire, c'était ça, je fais le lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, le service est valablement rendu quand celui qui le reçoit considère qu'il l'est. C'est lui le sujet, c'est pas l'objet de ma... c'est pas quelqu'un à qui je vais essayer de fourquer la... une marchandise dont je décide moi-même, c'est mon activité va dépendre de l'autre. Enfin, c'est ça le fondement philosophique, il est là. Et je pense que cette attention à l'autre, je reprends là ce que d'autres gens ont pensé bien mieux que moi avant, que dans cette attention à l'autre, il y a le terrain qui permet l'émergence d'un sentiment de l'autre. Plus que, vous voyez, que là plus que... Là,
sur un plan moral, est-ce que cette question de... cette diversification, je dirais, du business social, cette distinction entre le business social et le business normal, bon, est-ce que c'est une bonne question? Parce qu'au fond, est-ce que tout le business ne devrait pas être fondé sur une vraie morale?
Mais
est-ce qu'il faut faire cette distinction?
Ce que je pense, je crois à la contamination, on ne peut pas changer les choses d'un jour à l'autre, je pense que d'introduire, hein, c'est ce que je... disait tout à l'heure, d'introduire au cœur même de l'activité d'une société une activité de ce type-là aura un effet. Alors, dans mon livre, je parle de capillarité, ce qui est peut-être plus positif que la contamination, mais bien sûr, après les actifs, bien sûr, je pense, si vous voulez, que cette inversion de logique, elle va gagner, je pense qu'elle prendra du terrain très très rapidement. Mais vous ne pouvez pas, il y a des activités quand même qui se prêtent mieux que d'autres, vous avez des mastodontes en place, l'évolution elle va se faire.
Est-ce que vous connaissez Dana Zohar qui est professeur à Harvard?
Non.
Parce que j'ai reçu justement des vœux de Guy Berthel-Marmont, je ne sais pas si vous avez reçu ça, si vous avez 30 secondes, je vais dire, ça c'est le credo du dirigeant chevalier, où elle écrit ceci, bon la traduction n'est pas très bonne. Il dit, je crois que les entreprises détiennent l'argent et le pouvoir pour transformer le monde incertain d'aujourd'hui et qu'en agissant de la sorte, elles peuvent s'aider autant elles-mêmes que les autres. Je considère le monde des affaires comme élevant son regard au-delà de la simple rentabilité. Je considère le monde des affaires comme une vocation au même titre que les plus nobles professions. Pour rendre cela possible, je crois que le monde des affaires doit développer une dimension morale en devenant plus orienté vers le service à la communauté, vers la création de valeur pour tous, et en établissant plus de liens entre le secteur privé et les institutions œuvrant pour le bien public. Je crois dans des entreprises prenant soin du monde dans lequel elles opèrent et dont elles tirent leur richesse, et je me considère comme devenant un de ces dirigeants qui sont au service plutôt qu'au pouvoir, non seulement des actionnaires, collaborateurs, employés et clients, mais également de la communauté tout entière, de la planète, de l'humanité, du futur, de la vie.
Je suis là, vous élargissez ou vous élargissez ou vous chapeautez l'effort qui est fait. Je suis à 100% en accord avec ce que vous venez de lire. Et j'ai dans ce qui est la structure du prochain livre, j'ai des développements de ce type-là en m'appuyant sur notamment sur Lévinas, et sur Ricoeur. Lévinas qui parle d'une... je suis convaincu qu'il y a une signification éthique de l'argent et qu'il peut contribuer à une humanisation du monde. Vous citiez Teilhard. Pour moi, Teilhard, c'est le guide suprême, si je puis dire, pas suprême, mais c'est le guide sur la nécessité d'humaniser le monde. Et là, il faut vraiment chercher la signification éthique de l'argent. Il faut vraiment chercher dans ce sens. Mais vous voyez, elle parle du service à la... Enfin, c'est à petite échelle ce dont je viens de vous parler. De manière pratique, c'est ce dont je viens de vous parler. Je le pense vraiment. Mais alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, aussi, dans ce que vous dites, c'est que je ne connaissais pas, et je vous demanderai d'ailleurs tout à l'heure de... Je vais m'en laisser, parce que je ne connaissais pas, parce que je suis en contact avec des gens à Harvard qui me... Mais elle ne va pas être propre, elle est dans quel domaine? C'est une économie?
Non, elle est plutôt spirituelle.
Physicienne et philosophe.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est tout à fait intéressant, parce que moi je cherche depuis quelques temps, j'ai des gens à Harvard qui réfléchiraient à ces questions-là, et la personne avec laquelle je suis en contact est un des pontes aux États-Unis sur la gouvernance, elle me dit, c'est un, vous savez, elle me dit, c'est des sujets, il y a des sujets sur lesquels nous sommes myopes aux États-Unis, et en voilà un. Et elle m'a envoyé le papier, elle me dit, c'est à peu près ce qu'il y a de plus avancé en matière de gouvernance. mais moi, j'ai répondu juste rien. Enfin, c'est, je peux vous dire, une redéfinition, première tâche, une redéfinition, je traduis en même temps, donc j'ai mal de faire, mais une redéfinition de la mission de la société et du rôle du conseil d'administration et du dirigeant, de créer une valeur durable pour les actionnaires, mais aussi pour les autres partenaires, et ce, grâce à une performance économique du long, à un management du risque et à une grande intégrité. Je vais aller voir Stéphane Richard pour Stélecom, je vais lui dire, voilà, il faut que vous fassiez Sound Risk Management and High Integrity. Il est bien parti avec ça. Ça va lui servir à quoi? Il me dit, oui, High Integrity. Et puis après, je fais ça pendant 10 pages sur l'importance de l'integrity. Bon, c'est très bien, il faut être intègre. C'est comme quelqu'un, un médecin, qui vous allez voir et il vous dit, vous êtes stressé, il ne faut pas être stressé. Très bien, ok, je ne vais pas être stressé. Je préfère.
Il faut réintégrer l'éthique à tous les niveaux. Je veux dire, ça fait un peu penser à oui. Au général de Gaulle qui payait quand il dînait à l'Élysée avec des gens, il payait sa part sur son salaire.
Mais ça, oui, mais pour ceux qui sont déjà convaincus ou qui sont déjà intègres, ça va. La grosse difficulté, c'est comment tu introduis une logique différente dans un système qui ne conduit pas nécessairement.
Je crois que c'est l'éducation, et je crois que c'est l'éducation. Je crois que l'éducation, ça vaut aussi bien pour les gens riches, enfin pour tout qui a de l'argent, que pour les gens pauvres.
Bien sûr, mais l'éducation est une des voies. Est une des voies, et on va d'ailleurs l'aborder avec Bernard Ramanantsoa dans un de nos séminaires. Ce que dit selon moi Daniel ici, c'est qu'il y a un autre instrument parmi d'autres qui est celui justement de changer via le juridique certaines logiques de finalité des
institutions. Ça comporte un danger à mon avis, c'est que on pourrait être tenté, certaines personnes pourraient être tentées de dire voilà, je vais faire du business propre à côté de mon business dégueulasse.
Oui, bien sûr.
La question est de savoir, est-ce qu'on peut encore supporter un business?
Mais vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, vous n'avez pas le choix. Moi, je commence par là où je peux commencer. Je voudrais vous dire juste une phrase d'Agatha Sinski. Si vous voulez, justement, sur le business, enfin, appelons ça, je reprends votre terme, le terme de business propre, bien que je n'aime pas trop. Je m'abstiens totalement des jugements de morale, hein, mais quelque chose de. Donc, je me replace dans le social business, dans l'attention à l'autre et l'attention à sa perception du service que je lui rends. Quelque chose de moral peut surgir au cœur, au creux de la compétence. Il faut agir sans éprouver des dispositions particulières, sans bien savoir même si l'on est doté d'une vertu morale. Mais ça me paraît extrêmement intéressant. Les gens qui agissent, je ne vais pas embêter les gens aujourd'hui qui agissent dans la société de savoir s'ils ont une vertu morale ou pas. Mais si je leur inverse la logique, et ça les attire, et puis ils ne se posent pas, je vois bien que tous ces gens qu'on rencontre, ils ne se posent pas de questions sur la qualité morale de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas, ou surtout une culpabilité par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Mais par, si vous voulez, cette compétence d'attention, parce qu'il y a la compétence toujours, mais la compétence et l'attention à l'autre, quelque chose de moral peut surgir. Et si ça surgit au sein de l'individu, il le reproduira dans toutes ses activités. C'est ça le pari, et il les infléchira. Si vous voulez, je crois beaucoup plus, parce que la formation, il faut faire très très attention, je crois beaucoup plus à ça qu'à tout ce qui est l'introduction d'une éthique des affaires. Ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, et je voudrais peut-être juste vous dire ceci, qui est Dan Salmon dans Éthique du capitalisme. Le changement radical, le changement radical qu'elle perçoit à partir de la fin des années 90, avec la multiplication des chartes éthiques, des engagements de responsabilité sociale et développement durable, et que le capitalisme ne cherche plus à importer dans l'entreprise des valeurs religieuses ou politiques, mais à faire de son propre fonctionnement la référence à la vie morale et sociale de ses salariés. Plutôt qu'à une moralisation de l'économie, nous assisterions à une économisation de l'éthique, par laquelle l'entreprise serait devenue la dernière communauté viable et les engagements, les croyances et les qualités individuelles des biens de consommation échangeables sur le marché des valeurs. Si vous lisez les codes d'éthique des entreprises, en tout cas, cette éthique des affaires, ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Donc, Moi, j'aime beaucoup plus cette démarche de la, l'édification de la, voilà, l'identité que je trouve, la construction de l'identité à partir du souci que j'ai de l'autre. Là, enfin, on se rattache à, vraiment, à, là, on est vraiment dans Ricoeur, mais et je dis que ce mode d'entreprise du social business en est une application. Et que derrière, pour moi, la question de démocratie, d'associer, de démocratie me paraît, est une autre question, démocratie d'entreprise, est une autre question indépendante qui relève du choix de, qui relève du choix de chacun.
Il y a aussi la financiarisation.
Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre une pause maintenant? Ça nous permettra de décanter un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a entendu. Je vous propose que pendant la pause, si vous le voulez, on note sur un flipchart les grandes questions qui nous viennent. Vous pouvez venir me la communiquer ou l'écrire directement. Et on pourra alors peut-être essayer de structurer autant que possible le débat autour des grandes questions qu'on aura notées ensemble.